nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau dossier de Comaguerre. Et nous retrouvons Sidi avec plaisir, et je le remercie pour sa présence à ces heures tardives. Et le dossier de ce soir est consacré à l'impérialisme, ou plutôt à l'anti-impérialisme, et vous allez voir qu'on aurait pu l'intituler, l'idée m'est venue après, c'est-à-dire que on ne n'est pas nécessairement anti-impérialiste, mais on peut le devenir. C'est exactement le propos que va tenir devant nous l'auteur qui est invité ce soir, qui s'appelle Frédéric de Lorca, et qui a produit, il y a de ça un certain nombre d'années, un atlas alternatif, c'est-à-dire un panorama, j'allais dire un balayage de la totalité des rapports entre les États et des rapports entre les classes à l'intérieur de ces États sur la totalité de la planète à un moment où l'impérialisme faisait, alors il a continué à en faire, mais il faisait d'énormes dégâts. Donc on va revenir avec lui sur cette période et sur cette façon dont il, lui, et ça c'est très très important pour ceux qui nous écoutent, parce que je renouvelle, on peut ne pas naître anti-impérialiste, mais on peut le devenir, et il faut s'en donner les moyens. Et c'est ça qui est très intéressant dans son expérience, donc il va nous la raconter par le menu. Et donc on écoute Frédéric de Lorca, auteur, ou plutôt coordinateur, il va expliquer, d'un ouvrage important qui s'appelle « L'Atlas alternatif ». Merci de nous écouter et n'hésitez pas à poser des questions ou à lui faire poser des questions ou à lui envoyer des questions qu'on lui transmettra, car le travail qu'il a fait est un travail exceptionnel. C'est une aventure dans laquelle il s'est lancé très très seul. Il a réuni énormément de contributeurs et il a produit un ouvrage qui mériterait d'être reproduit à nouveau avec d'autres contributeurs, d'autres plumes, etc., dans une actualité où l'impérialisme fait encore beaucoup de dégâts. Voilà, merci de votre attention et on écoute donc Frédéric de Lorca.
Bonjour, je me trouve en présence de Frédéric de Lorca qui a rendu une visite à Marseille. Venant le remercier, je profite de sa présence dans notre bonne ville pour le faire parler d'un passé qui est un peu lointain mais qui est en même temps très riche d'enseignements, en particulier pour tous nos auditeurs un peu plus jeunes. C'est-à-dire qu'il fut une époque qu'il a vécue et que j'ai vécue aussi à ma façon, où il y avait en France, même dans le monde entier, un mouvement contre qui s'était développé à partir de la menace d'une guerre en Irak qui a quand même eu lieu malgré ce mouvement, mais on a été face à un mouvement anti-impérialiste ou anti-guerre qui a touché à peu près toute la planète, qui a été très fort et dont on peut regretter aujourd'hui qu'il n'ait pas fait des petits, puisque c'est quand même la situation où l'impérialisme est encore là, il a encore des méfaits, et donc c'est intéressant de parler avec Frédéric de Lorca de ce qui est son opus maximus, comme on dirait, je le taquine, mais qui est donc un ouvrage que j'ai sous les yeux, qui a été publié en 2006, qui s'appelle « L'Atlas alternatif », et qui a été publié par un éditeur qu'on place à gauche sans que je rentre dans les détails, qui s'appelle « Le temps des cerises ». Donc c'est par ça qu'on va commencer, c'est-à-dire que Frédéric de Lorca nous explique pourquoi il avait décidé de faire ce travail-là, dans quel cadre, dans quelle ambiance politique générale, géopolitique générale à laquelle je faisais allusion tout de suite, là, pour arriver à faire un balayage de la situation mondiale qui ne soit pas celui des puissances installées et des pouvoirs en place. C'est-à-dire une autre lecture, de gauche, pour faire simple, encore que le concept soit difficile à manipuler, mais enfin, disons ça pour faire simple, il nous expliquera plus précisément comment il a travaillé et quelle lecture on pouvait avoir de l'état du monde dans les années entre 2000 et 2003-2004, hein, qui ont donné donc cette lecture sous la forme d'un atlas alternatif, donc qui est un gros livre de presque 400 pages, hein, si je ne me trompe, qui couvre la totalité du monde, ce qui est assez rare. Alors, il y avait, on savait à l'époque, il y avait des publications, genre je crois que La Découverte en faisait un, il y avait un état du monde tous les ans, etc., qui permettait de se tenir au courant, mais qui n'était pas dans le même esprit, et puis il n'y avait pas la synthèse que faisait ce travail. Donc voilà, je lui laisse la parole pour qu'il nous explique la genèse de l'Atlas alternatif et de sa pensée, de son engagement politique à lui, simultanément.
Eh bien, bonjour à tous d'abord, et merci Bernard, effectivement. On va faire un peu d'histoire, notamment pour les jeunes générations. Alors, on sait que chaque génération rentre dans la réalité historique de son époque par un événement marquant. Hein. Je crois que ce qui a beaucoup marqué les gens qui ont contribué à l'Atlas alternatif, c'est la fin des années 90 avec la guerre du Kosovo. Je crois que ça a été un tournant pour beaucoup de gens, et ça a été pour moi notamment. Je crois que bon, on s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais si on replace dans le contexte de l'époque, dans les années 90, on a été tous enivrés par le thème de la mondialisation, la globalisation, après la chute de l'Union soviétique, il y avait l'idée que c'est la fin de l'histoire, comme on disait.
C'est ça.
Il n'y a plus de guerre. On va rentrer dans un monde de communication, les autoroutes de l'information, c'est ça. Et on a eu l'apparition en 96-97 d'Internet en France.
Tout à fait.
Dès le début. Et alors, bon, alors, parler du village monde, on allait tous pouvoir communiquer entre nous, il allait y avoir une espèce de démocratie planétaire. Et donc, il restait face à ça, dans le discours dominant, il y avait des espèces de résidus comme ça, c'est-à-dire des pays qui n'arrivaient pas à comprendre à quel point le président Bill Clinton était un type formidable, à quel point l'OMC, le libre commerce, le libre-échange était la solution pour l'humanité, etc. Il y avait des peuples qui ne comprenaient pas, et il y avait des peuples qui continuaient à se massacrer entre eux. En gros, c'était l'image qu'on avait. Il y en avait en Afrique de l'Est, il y en avait en ex-Yougoslavie, et on a tous été très marqués par cette guerre de Yougoslavie où, moi le premier, on a adhéré à cette espèce d'idéal humanitaire, d'indignation généralisée face au massacre, et de volonté d'imposer la démocratie, d'imposer les droits de l'homme partout. Donc on était là-dedans. Moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir de ça en 98, parce que j'ai rencontré sur un site internet, puisqu'on était au début d'internet, et ça c'est le bon côté d'internet, c'était internet, et la propagande, et en même temps
la découverte
des alternatives. Voilà, c'est ça. Et donc moi j'avais la chance de rencontrer à l'époque sur internet, sur un site qui était proche de Noam Chomsky, un étudiant serbe qui était à Belgrade, qui était de sensibilité gauche de la gauche, un peu anarchiste, et à qui, qui voulait être en contact avec des gens en Occident. Et du coup, je m'étais permis de lui dire, c'était en juin 98, de répondre à son annonce en disant « Tu as du mérite d'être anarchiste en Serbie sous la dictature de Milosevic, ça doit être horrible. »
Et oui.
Et donc le lendemain, il me répond, il me dit « Ah, mais pas du tout, tu sais, les choses ne sont pas aussi simples, il y a des anarchistes ici, il y a des mouvements de gauche, il y a toutes sortes de tendances politiques, c'est pas du tout la dictature que tu crois. » Et moi, qui étais fraîchement sorti des grandes écoles parisiennes, avec l'arrogance qu'il a avec, l'arrogance qu'on retrouvait aussi chez nos journalistes, j'ai voulu lui donner des leçons. Je lui ai dit, mais non, mais pas du tout, tu ne te rends pas compte, c'est une dictature chez toi, et puis vous avez commis des horreurs en Bosnie, et puis maintenant vous en commettez au Kosovo. Et donc, mais comme il était proche de Chomsky, et très, très, bon, il était interprète en plus, donc il lisait beaucoup de trucs en anglais, donc il était très ouvert à tout ce que disait la gauche américaine, etc. À cette époque-là, parce qu'il y avait une gauche anti-impérialiste.
Tout à fait, tout à fait. Qui était dans ce courant ZNet.
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
De ZNet. Et du coup, il m'a envoyé énormément de textes que j'ai étudiés avec beaucoup d'attention sur la guerre de Bosnie, sur ce qu'on nous avait fait croire à tort sur cette guerre, et encore plus sur ce qui se passait au Kosovo. Et du coup, j'ai dû faire un aggiornamento, c'est-à-dire que j'ai passé mon temps à comparer les arguments, j'avais aussi des correspondants albanais et autres, donc j'ai essayé de comprendre au maximum ce conflit, mais je me suis fait une idée très claire sur la dimension de mensonge de la propagande de la propagande des médias dominants, et c'était juste au moment, donc à la veille des bombardements, donc après j'ai vécu en direct cette période de délire collectif qu'on a connu à partir de mars 1999. Et ça, je crois que ça a marqué beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a 90% de la population a marché dans le plan de l'ingérence de l'OTAN en ex-Yougoslavie, contre ce qu'on appelait la République fédérale de Yougoslavie, c'est-à-dire la Serbie Monténégro. Et donc 90% de la population a vu décoller avec admiration et exaltation nos bombardiers pour aller bombarder Belgrade.
Tout à fait, oui.
Tu te souviens de ça, pour aller apprendre enfin la démocratie à ces méchants Serbes. Mais il y a quand même eu des gens qui ont trouvé, et là, grâce à la vaccination de mes échanges avec ce correspondant, on a trouvé incroyable qu'il n'y ait pas plus de débat là-dessus. Quoi. Et donc, du coup, je crois que ça a vraiment marqué pas mal de gens. Alors, il y avait évidemment les gens qui étaient à droite de la droite, qui, eux, soutenaient la Serbie pour les mauvaises raisons, pour les fantasmes anti-musulmans, pour des fantasmes de France éternelle avec la Russie éternelle, enfin des trucs, voilà. Et puis il y avait encore ce qui restait d'esprit critique à gauche sur le thème de la militarisation de nos sociétés, de l'impérialisme de l'OTAN, puisque l'OTAN n'avait rien à faire en Serbie, puisque c'était une alliance de défense de la société occidentale. Qu'est-ce qu'on allait faire, voilà, pour aller la Serbie, on va peut-être l'expliquer en deux secondes pour.
Oui, c'est bon de le rappeler.
Oui, c'est bon de le rappeler. La Serbie qui faisait partie de ce qu'on appelait la République fédérale de Yougoslavie, donc c'était ce qui restait de la Yougoslavie de Tito après que la Croatie, la Slovénie, la Bosnie se sont détachées, ainsi que la Macédoine, et bien ce bloc-là était confronté à une guérilla albanaise, maoïste, qu'on appelait Luceka, sécessionniste au Kosovo, et qui donc demandait la sécession du Kosovo contre toutes les règles internationales de l'époque. D'ailleurs, tout éclatement de la Yougoslavie avait été illégal du point de vue international. Voilà. C'était vraiment... Il y avait plein de choses à dire là-dessus. On peut faire une émission là-dessus. Et donc, la République fédérale de Yougoslavie, à l'époque, essayait donc de se défendre et de défendre la population contre cette guérilla de Luceka, qui était une vraiment extrémiste, maoïste. Donc, alors, problème de conflit ethnique, même pas ethnique d'ailleurs, partiellement ethnique, largement manipulé en sous-main par les puissances occidentales, parce qu'on a su après par exemple, les services secrets allemands étaient déjà impliqués au Kosovo derrière les nationalistes albanais, etc. Voilà, il y avait déjà un travail de réinformation à faire à l'époque, et on a vu apparaître les premiers sites d'information alternative en 1998-1999 sur la Yougoslavie, qui s'inspiraient donc en grande partie des sites américains, puisque eux avaient déjà une longueur d'avance parce qu'ils avaient eu Internet avant nous.
Hein. Oui, oui.
Voilà. Et donc, du coup, moi-même, j'avais lancé un site d'information alternative à ce moment-là, quoi, dès début 99, dès avant les bombardements. Et ce qui m'a permis, du coup, de commencer à recevoir des messages de gens de divers bords, plutôt à gauche, parce que mon site était à gauche, mais enfin, on avait... même Régis Debray m'avait contacté. Mmh. Donc je me suis pas mal impliqué en 2000, même après la fin des bombardements, parce que la Serbie restait sous embargo. Je me suis pas mal impliqué dans les débats. Il y avait même eu un projet avec Régis Debray de faire un bouquin d'information alternative. Et là, on est rentré à ce moment-là dans une espèce de cycle de guerre qui on ne tombait pas où est-ce qu'il allait s'arrêter. Parce que on a eu un tout petit espoir, ça on l'a un peu oublié, mais ça ressemble un peu à ce que nous a fait Trump récemment. Mmh. En septembre 2000, les républicains, qui avaient pour candidat George W. Bush, étaient un peu sur la ligne de « faut arrêter d'avoir des bases américaines un peu aux quatre coins du monde, ça nous coûte cher », et George W. Bush avait dit « on va peut-être arrêter de faire de l'ingérence ». Mm-hmm. Parce que c'est un vieux truc de l'électorat de droite américain.
Qui classique, isolationniste.
Ouais, isolationniste. D'ailleurs, c'est marrant parce que même pendant la guerre de Serbie, j'avais déjà à l'époque essayé de faire un bouquin collectif là-dessus. Mm-hmm. Et bien, une biographe de Ronald Reagan aux États-Unis m'avait contacté pour me dire « Je veux bien participer à votre bouquin parce que nous, les gens de droite, on n'aime pas cette politique de Clinton contre la Serbie. » L'isolationnisme, ça avait du sens quand même. Ouais. Déjà à l'époque, oui. Ça nous coûte cher, on n'a rien à y faire, etc. Enfin, le truc... Donc il y a eu un petit espoir à ce moment-là, puis enfin, j'arrive en septembre.
Oui.
C'est le truc... Et là, faut se rappeler à la fois, comme on dit, l'hubris, quoi, la démesure,
total.
L'OTAN qui voulait, qui était une organisation de défense de l'Europe occidentale, qui s'était présentée en donneur de leçons en Serbie, maintenant aller pratiquement jusqu'à l'Afghanistan, quoi. Il y a des questions qu'on aille donc se débarrasser du terrorisme en Afghanistan. On voyait pas où ça pouvait s'arrêter. On était en train d'entrer dans une logique de guerre, tu t'en souviens, complètement démesurée, quoi, sans limite, quoi. Mmh. Et là, il y a eu une espèce de d'inquiétude dans ceux qui n'ont plus voulu être complices de ça. Et donc moi, j'ai commencé à ce moment-là à réunir des gens. Alors, moi, au début, je voyais bien que l'enjeu de l'information était considérable, parce que, tu vois, on avait toutes les chaînes de télé qui disaient la même chose, mmh. Tous les grands journaux. En plus, on avait le début du matraquage de l'information en continu, parce qu'il y avait l'apparition de France Info.
Ouais.
Hein, tu vois. Avec donc ce conditionnement des esprits, le pouvoir de l'image, Régis Debray avait sorti un bouquin là-dessus, il disait la vidéosphère remplace la graphosphère, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'écrit, on était sur l'image, et donc l'image avec les affects, que des affects, on a vu ça avec Gosselin sur la question des massacres, ouais. Et on nous balançait des affects sur Ben Laden, on nous balançait après des affects sur Saddam Hussein, tu vois, on n'en sortait pas. Et donc aussi la nécessité de revenir de l'information écrite, en utilisant éventuellement Internet pour ça, mais aussi avec une base d'un bouquin. Moi, je me suis dit, il faut qu'on ait un truc où les gens puissent avoir un outil où ils puissent lire, réfléchir à tout.
Voilà, exactement.
Alors, il y avait les médias dominants, comme tu dis, ou peut-être la découverte, je ne me souviens plus, mais les médias dominants faisaient des trucs, bilan de l'année, des
choses. Oui, ça existe, ouais, voilà. Mais
la CIA avait un truc d'information.
oui, ça avait un rapport annuel, oui.
Ouais. Et alors moi, je m'étais dit, bon, puisqu'il commençait à y avoir des sites... en langue anglaise, mais aussi en français, parce que les Belges, on y reviendra, étaient très dynamiques là-dessus.
Ouais.
On peut synthétiser un truc qui fasse de la contre-information sur l'ensemble du globe. Puisque les dominants ont une stratégie hégémonique sur l'ensemble du globe, on va contrer. Tu vois. Et donc, tu te souviens aussi, c'est l'époque où on commence à parler d'intermondialisme.
Tout à fait. C'est tout à fait.
Parce qu'on commençait à voir qu'il y avait, je crois, la Chine est rentrée dans l'OMC en 1997.
Tout à fait.
Ça. Peut-être un peu avant.
Un peu après, je crois.
Un peu après, la
Chine. Ou alors c'est rentré effectif en 2000, je crois. Enfin,
il
y a la signature et puis il y a l'entrée effective, oui, tout à fait.
Et donc, on commençait à voir cette logique de libre-échange planétaire. Avec tout ce que ça commençait à causer comme problème avec le néolibéralisme, tout le consensus de Washington en Amérique du Sud et autres.
Ouais.
Et on voyait se dessiner donc deux aspects de la globalisation, qui étaient la globalisation économique du libre-échange, du néolibéralisme avec les fondements de l'Argentine et des choses comme ça, et puis la globalisation militaire. Il y a même un chroniqueur. Je crois qu'il était du New York Times qui avait dit justement la globalisation économique a besoin d'un bras armé et l'OTAN ça sert à ça.
Ça sert
à ça. Et donc voilà, donc c'était une forme de totalitarisme qui nous envahissait. Et donc on se disait avec une contre-information ce serait intéressant. Et donc j'avais commencé à réfléchir à ça. Je suis allé voir. Les éditions du Temps des Cerises, je suis allé voir Francis Combes à l'époque, à la fin de 2002, donc là on était au moment où on parlait d'attaquer l'Irak, puisque après que George Bush a envahi l'Afghanistan, soi-disant pour déloger Ben Laden, voilà, et le punir d'avoir. D'avoir attaqué les jumelles du 11 septembre 2001, on a eu le mythe, la légende des armes de destruction massive de Saddam Hussein.
Mm-hmm.
Et à l'automne 2002, ça aussi, c'est pas toujours connu parce qu'on refait toujours l'histoire après, mais c'était pas du tout évident que Jacques Chirac allait s'opposer à ça.
Non.
C'est pas évident. Et il y a des tractations à l'ONU, on essaie d'envoyer des inspecteurs, etc. Mais pour savoir s'il y avait des armes de destruction massive, mais on ne savait pas ce que Chirac allait faire, donc il y avait des manifs. Et à l'issue d'une de ces manifs, je suis allé voir donc, le patron du Temps des Cerises pour lui dire qu'il faut qu'on fasse un bouquin.
Il y a un vrai enjeu.
Voilà. Et donc là, j'avais 32 ans à l'époque, et Francisco m'a dit ouais, t'as envie de faire ça tout seul, mais. Pour avoir plus de crédit, il vaut mieux que ce soit un collectif. Il m'a dit, bon, ici, on a quelques auteurs qui ont travaillé sur certains pays, et on peut envisager de faire quelque chose. Le problème, c'est que moi, je voulais couvrir tout le globe. Et en fait, chaque culture a son prisme. Il y avait des auteurs anglo-saxons qui avaient traité les anciennes colonies anglaises. Mais en France, on était surtout fort sur nos propres anciennes colonies, en fait. Et sur l'Europe aussi, bien sûr. Alors l'idée, c'était de montrer l'impérialisme occidental, les méfaits qu'il cause et les résistances qui peuvent exister, à la fois sur le plan économique et sur le plan militaire. Donc, on n'allait pas traiter l'Amérique du Nord. Et l'Europe occidentale, le Japon, l'Australie, qui faisaient partie du cœur pour nous de l'impérialisme, puisque de toute façon, c'est ce qu'on appelle l'Occident global.
Oui, tout à fait.
Le Japon, c'est ça.
On ajoute le Japon.
Et du coup, ouais, voilà. Donc l'idée était de montrer les méfaits de cet Occident hégémonique, impérialiste, dans les diverses sphères de diverses régions de la planète. En divisant la planète en morceaux. Ce serait un sujet pour les historiens, je ne veux pas non plus embêter trop les auditeurs en détail. Mais c'était très compliqué. C'était très compliqué à faire. D'abord parce qu'on n'avait pas un spécialiste pour chaque pays.
Exactement.
J'avais travaillé au départ, j'étais en binôme avec une auteure du Temps des Cerises qui avait suggéré que on fasse qu'on fasse une première partie, c'est ce qu'on a fait dans le bouquin, avec des termes transversaux.
Voilà, généraux.
Voilà.
Tout à fait. Oui, pour fixer la première partie du livre.
Voilà. Sur l'impérialisme et la santé, l'impérialisme et les inconvénients du libre-échange, sur l'ONU,
oui.
L'organisation de l'ONU, etc. Voilà.
Beaucoup à dire.
Beaucoup à dire, ouais, qui a toujours été instrumentalisé, en fait.
Ouais, ouais.
Et ensuite, une deuxième partie, qui était la plus grosse partie, où on ferait donc des régions. Avec des éclairages sur quelques pays significatifs de chaque région. Avec l'idée que on désignerait une personne à la tête de chacune des régions qui elle-même trouverait des personnes qu'elle coordonnerait. Une espèce de, comme ça, de truc pyramidal. En fait, ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça. Ça ne se passe jamais comme on voudrait que ça se passe. En fait, il y a eu quelques régions où ça a fonctionné comme ça, donc ça a été plutôt facile à faire. Mais il y a eu d'autres régions. Alors la difficulté, c'était que comme on n'avait pas... Alors, c'est assez marrant, parce que j'en ai parlé après avec un des contributeurs de la classe alternative qui s'appelle Rémi Rera,
oui.
qui était un membre du PCF, oui. et qui est toujours, d'ailleurs, à mon avis, c'est un universitaire, un économiste, qui m'avait dit, à la grande époque du PC, dans les années 70, ça aurait été... La section des relations internationales du Parti communiste qui aurait organisé ça, qui aurait désigné un chef pour chacune des régions, avec, qui aurait fait ça de façon militaire, ça aurait été très facile à organiser. Mais dans la situation qui était celle du début des années 2000, c'était plus la même chose. Le Parti communiste était tout petit et largement rallié à la politique de Jospin, déjà,
oui.
de avoir demandé la stabilité,
oui.
etc. Et donc, on était plutôt des analystes un peu indépendants qui étaient de sensibilité de gauche, qui étaient dans divers pays, qui se connaissaient pas entre eux, que moi j'avais recruté par réseau comme ça qu'avaient les uns et les autres, ou directement en allant sur les sites internet en disant voilà, est-ce que vous voulez rejoindre ce projet. Donc, on pouvait pas avoir pour chacune des zones quelqu'un qui dirige un groupe de personnes qui connaissent, etc. Donc, on a fait un truc un peu plus bricolé. Avec une feuille de route que j'avais envoyée pour chacun, à savoir de couvrir donc la période qui allait depuis le début des années 90 jusqu'à la guerre d'Irak.
Tu avais fixé un nombre de signes,
format. Oui, c'était 2000 signes, je crois, par contribution. On avait calculé, ouais. Et alors on était dans des dosages un peu compliqués. Enfin, moi je. Que je réfléchissais à l'après aussi pour la diffusion. Comme on veut tout fonctionner sur des réseaux, donc il fallait réfléchir à ce que ça reste pluraliste, à ce qu'on puisse toucher divers réseaux. Et il y avait des réseaux qu'il fallait éviter aussi.
Oui.
Je me souviens, un des contributeurs de la classe était un universitaire qui avait des réseaux, mais dans des milieux assez disparates. Ça allait du monde diplomatique jusqu'au réseau de Thierry Messon, qui à l'époque n'était pas encore très marqué. Il était encore parti radical de gauche.
Oui, voilà. Après, oui. Et en vrai, tout un débat à mener sur le personnage.
Oui, parce que
moi, j'ai suivi ses évolutions aussi en Syrie, et ça a été assez étrange aussi le mouvement syrien de Thierry Messon.
Ouais.
Enfin, c'est pas le sujet, mais effectivement.
Voilà. Mais ça, c'est assez typique, tu vois. C'est-à-dire que, je suis très content de ne pas avoir recruté Thierry Messon, tu vois.
Oui, mais je comprends.
Tu vois. Voilà. Parce qu'après, en même temps, pour l'image d'un bouquin aussi, on ne sait pas, certaines personnes, dans quel réseau elles se trouvent, quelle image ça va donner au bouquin, etc. C'est pas évident. Et on avait ciblé un peu le réseau du monde diplomatique. On avait notamment 1100 personnes qui étaient contributeurs du monde diplo, et qui a fait la contribution sur l'Albanie, parce qu'il a eu un passé illustre dans l'Albanie communiste, et il avait fait aussi le chapitre sur l'ONU. Mais on n'a jamais pu avoir un article dans le monde diplo parce que ça tient très peu de choses. Ouais, ça tient un peu de choses parce qu'en 2006 ou 2007, le monde diplo a fait son propre atlas. Il a sorti au même moment que nous. Et ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout le même concept. Le monde diplôme, ils avaient fait un atlas qui était plus proche de la notion classique d'atlas, en fait, avec surtout voilà, des cartes sur
la cartographie,
des ressources, des trucs comme ça, de la géographie, quoi. Mm-hmm. Moins historique que nous. Et donc, en gros, ils nous ont dit, ben, nous, on fait la pub de notre atlas, c'est pas du monde. Voilà.
Je ne sais pas si c'est bien vendu de leur hébergeur. On ne le cite pas souvent.
Non, mais en fait, c'était un truc très fin. Hein. C'était un truc qui faisait juste une trentaine de pages, mm-hmm. avec quelques cartes pour expliquer des trucs un peu basiques. Quoi, sur, non, je crois que ça n'a pas trop marqué l'histoire du mouvement intermondialiste de la gauche résistante. Et, voilà. Donc, en tout cas, on essayait, moi j'avais un peu ces stratégies de diffuseur en tête. Alors, c'était à la fois compliqué parce qu'il y avait des... Parce que d'abord je ne connaissais pas tout le monde. Il y avait des gens que je connaissais directement, d'autres de façon très indirecte. Il y a des gens qui se sont engagés et qui finalement n'ont pas produit d'article. Donc il a fallu les remplacer.
Oui.
Il y a eu toutes sortes de choses. Après, il y a les querelles d'ego aussi qui existent aussi. Il y a des rumeurs. À certains moments, on dit ah non, mais c'est abandonné, etc. Bon, voilà. Ça a été. Du coup, on a mis presque 4 ans pour le sortir.
Oui.
Entre le travail donc, de recrutement des gens, de remplacement de ceux qui n'étaient plus dans le coup, d'élaboration des cartes, de traduction des textes, parce que on avait des textes en anglais, en espagnol et en français.
Ouais. Ouais.
Donc on avait. Il y a tellement de choses à dire en fait. Je crois que j'ai misé principalement sur trois grands réseaux. Mm-hmm. Il y avait d'abord le réseau qu'appelait le Temps des Cerises, qui nous a apporté quelques universitaires qui étaient encore pour la plupart membres du Parti communiste, notamment ceux qui ont traité l'Asie centrale. Le Maghreb.
Dans l'Asie centrale, c'était les fils de Torres, non, déjà.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Qui sont restés des références académiques sur l'Asie centrale, encore aujourd'hui.
Ouais.
Oui,
non, c'était Bourgeot sur le Maghreb, c'était des profs d'université qui avaient une bonne notoriété. Donc, on a eu Rémi Herrera pour le Venezuela et Cuba. Mm-hmm. Donc ça c'était. Alors il y avait aussi, ça c'était. On comptait beaucoup là-dessus sur Samir Amin.
Oui.
Voilà, qui était un économiste marxiste très prestigieux, mmh. qui avait été conseiller de Nasser en Égypte.
Exact. Ouais.
Qui était auteur au Temps des Cerises, il a écrit un bouquin notamment en faveur d'une quatrième internationale, très brillant, qui nous avait fait donc la partie sur le Proche-Orient. On avait envisagé de le prendre comme préfacier, et puis finalement il n'a pas voulu, il avait juste été limité au chapitre Proche-Orient, et après on a eu Jean Bricmont comme préfacier. Bon, ça n'a pas été forcément un très gros avantage en termes de diffusion, ça aurait été sûrement mieux Samir Amin.
Oui.
Mais bon, à l'époque, Bricmont s'était pas mal engagé aussi sur la Yougoslavie parce qu'il.
Sur la Yougoslavie, oui, lui et Diana.
Voilà, lui et Diana, Diana Johnson qui nous avait écrit l'article sur la Serbie.
La nef des fous.
La croisade des fous.
La croisade des fous.
Ouais. Croisade des fous. Qu'elle a réédité, je crois, récemment. Déjà.
Oui.
Ça avait été édité au Temps des Cerises. Et alors ça, c'était le premier réseau, donc les proches du Temps des Cerises. Ensuite, on avait un réseau belge qui nous a servi... qui nous a servi pas mal pour les contributions transversales, notamment proches du Parti du Travail belge, qui à l'époque était plus engagé sur l'anti-impérialisme qu'il ne l'est devenu depuis. Il y avait des gens que je connaissais sur la Yougoslavie. Un personnage, par exemple, c'est très intéressant aussi parfois de faire un peu des focus sur les personnages.
Oui, que, oui.
Voilà, les militants, c'est des gens qui font pas la une de nos journaux et c'est souvent des types formidables. Quoi. Là, voilà, je pense à lui, à Chris Black, qu'on a, qui était. Sollicité pour l'article sur la Corée du Nord parce qu'il avait fait il avait participé à une mission d'inspection en fact-finding mission, puis ça allait mission pour donc en Corée du Nord, il avait fait partie de ça, mais surtout il était connu pour être un avocat au tribunal pénal international sur le Rwanda.
D'accord.
C'est un type, c'est un Canadien anglophone, il était avocat du travail, et il s'était lancé dans cette aventure d'aller contrer le discours officiel sur les Grands Lacs et le Rwanda, en allant défendre des Congolais, des Hutus, devant le TPI, faire son boulot d'avocat, mais devant une cour internationale. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait deux tribunaux qui avait été créé ad hoc pour les guerres civiles.
Et oui.
Voilà. Tribunal pénal international à Rwanda et celui de la Yougoslavie. Qui étaient deux tribunaux assez bizarres, qui étaient basés à La Haye, qui sont les ancêtres en fait de la CPI.
La CPI, tout à fait.
Et c'était des structures assez bizarres, qui étaient largement financées par les fonds privés, un peu comme l'OMS aujourd'hui. Quoi. C'était vraiment. Des milliardaires qui finançaient ça, avec des procédures extrêmement floues qui changeaient tout le temps, etc. Lui, il avait relevé ce défi, donc il avait plein de choses à dire sur le Congo. Je ne l'avais pas mis sur le Rwanda, parce que c'est un sujet très compliqué, savoir vraiment ce qui s'est passé au Rwanda et tout. Je n'avais pas envie que quelqu'un qui soit trop punchy. Il fallait faire des dosages quand même, quoi. Il fallait être ni trop mou, ni trop punchy sur certains sujets comme ça. Donc le Rwanda, c'est moi qui avais écrit à partir de ce qui était sur Internet, mais lui avait fait l'article sur le Congo, et, parce que la guerre du Congo avait déjà commencé, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est depuis 1996, voilà, avec déjà des centaines de milliers de morts. Et donc il avait fait aussi l'article Corée du Nord. Pour la petite histoire, j'avais envoyé la place alternative à Ruffin.
Ah oui.
J'étais allé travailler à la vache Sivissu.
Ah oui, il travaillait Mermé, exact. Ouais. Oui, il travaillait Mermé.
Je l'avais envoyé, j'avais dit, vous ne pourriez pas parler du bouquin. J'avais dit, c'est intéressant, mais il y a des trucs que je ne suis pas d'accord avec vous. Par exemple, sur la Corée du Nord, vous êtes trop gentil avec la Corée du Nord. C'était apparemment une raison suffisante pour ne pas en parler. Bon. Alors, il y avait une grande. Alors, ça, c'était donc le. Je disais, pour ne pas perdre le fil de ce que je disais, donc il y avait donc le réseau belge qui nous a servi pour les contributions transversales et qui m'a servi aussi indirectement pour l'Amérique latine, parce que il y avait le père François Outard.
Eh oui, bien sûr. Je l'ai même croisé.
C'est un jésuite, je crois.
Oui, c'est un jésuite.
Un jésuite qui est proche du mouvement de théologie de la libération.
Tout à fait.
Très influent à Bruxelles. Très influent. Et
Ah oui, c'était une figure dans le militantisme bruxellois, oui. Plus que ça, même. Ouais. Et en Afrique aussi.
Oui, oui.
Moi, je l'avais connu déjà en 2000 parce que sur la Yougoslavie, au moment où la République fédérale de Yougoslavie était sous embargo, on avait lancé un militant communiste qui s'appelait Vladimir Kalière, qui d'ailleurs vient de sortir un bouquin sur l'Ukraine, je fais une petite parenthèse.
Ah oui.
Vladimir Kalière, un militant communiste belge, avait lancé l'appel de Bruxelles, et Outard avait fait partie des premiers signataires, et comme j'avais pas mal œuvré diffusion de l'appel ici en France. J'avais même recueilli la signature de Bourdieu à l'époque.
D'accord.
Bricmont aussi était parmi les signataires. Et donc, Outard nous avait permis de nous avait branché sur les universitaires latino-américains qui ont contribué sur l'Amérique latine. Voilà. Et donc, ça, c'était la deuxième piste. Après, on avait des pistes un peu dans la mouvance Chomsky ou dans la mouvance gauche américaine.
Parmenti, des gens comme ça.
Oui, alors Parmenti. J'avais connu Graeber, je ne sais pas si tu te souviens, c'était un universitaire anarchiste qui est mort prématurément dans 40 et quelques années. Et sa femme était une spécialiste du Népal, Laura Nive. Et donc elle a fait l'article Népal. C'est une des deux femmes. J'ai un peu honte, mais il n'y a que deux femmes parmi les contributeurs. Elle et Diana Johnston. Voilà, on n'a pas pu trouver beaucoup de femmes. Sur la géopolitique, c'était pas évident. Et donc, Lorraine Leaf nous avait branché sur des gens. Alors là aussi, il y a eu des convenus. Ceux qui devaient écrire sur l'Inde, par exemple, nous avait promis un papier, il n'a pas fait. Et du coup, on s'est rabattu sur un autre. Qui était un jeune chercheur qui maintenant est assez connu dans les mouvements altermondialistes, qui s'appelle Vijay Prashad.
Prashad, oui, tout à fait. Voilà.
Et donc après, ça a été aussi des recherches comme ça sur Internet. Alors, c'était une époque un peu bénie par Internet, parce que les gens se faisaient confiance. Mmh. On pouvait écrire à quelqu'un qui venait d'écrire un article, et il acceptait de contribuer à un bouquin sans nous connaître. C'était génial. Il y a pas mal de gens que j'ai jamais rencontrés et qui m'ont envoyé la papier.
Ouais. Voilà.
Et ça, je ne suis pas sûr que ce serait possible aujourd'hui. Quoi. Franchement, avec la méfiance qu'il y a à l'égard de.
Opération sous faux drapeau, sous fausse identité, enfin, tout est possible.
Oui,
tout est possible.
Ça, tout à fait. Le fait d'être balancé sur les réseaux sociaux après, etc., dès qu'on répond quelque chose à quelqu'un. Du coup, ouais. Mais à l'époque, voilà, on s'écrivait spontanément. Après, surtout que, en plus, c'était vraiment des actes militants, quoi. C'est du dévouement. Personne n'a gagné un centime.
Oui, j'imagine. Bien sûr.
Le seul truc, ça a été un peu dur d'ailleurs pour moi, c'est que. J'avais promis à chacun de leur envoyer deux exemplaires du bouquin et j'ai su après que ça n'aurait jamais parvenu. Donc je ne sais pas où ça a bugué au niveau de l'éditeur ou quoi. Voilà, je n'ai jamais pu savoir. Mais du coup, ça a un peu contribué à affaiblir le réseau, du coup, le fait que les gens ne reçoivent même plus
Les
bouquins. Mais ça aussi, c'est aussi révélateur des conditions difficiles dans lesquelles on était. C'était des petits éditeurs qui était toujours un peu au four et au moulin, il y avait des ratages un peu de tous les côtés. C'était du bricolage, mais on était finalement assez content au final, puisque on avait pu comme ça fournir un outil. Le bouquin maintenant est encore en vente. Je crois plus qu'il soit imprimé, mais il est en vente d'occasion.
Il se trouve, oui.
Ouais, il se trouve. J'ai vu, il est même pas cher, il y a 9-10 euros. Donc après, les contributions, sont un peu. On n'a pas toujours les mêmes approches au niveau des contributions. Il y en a qui sont très géographiques, d'autres qui sont plus historiques. J'avais demandé qu'on se concentre plutôt sur les dernières années qui font remonter à plus longtemps. Mais bon, je pense que l'un dans l'autre, ça fait quand même un bon outil d'information pour que chacun se cale un peu sur chacun des pays sensibles. On avait donc les diverses régions avec pour chacune deux ou trois pays sensibles. On avait réussi donc à tout couvrir, y compris les îles du Pacifique, tu vois.
Il fallait trouver quelqu'un.
Voilà, ouais. Donc après, on a essayé de diffuser en profitant notamment du fait qu'il y avait des forums alternatifs.
Voilà.
Tu vois, donc l'altermondialisme, on a un peu surfé sur cette vague qui était quand même...
Dans lesquelles il y a eu la précédente. Parce que c'était après Porto Alegre, c'était après Sifu.
Oui, oui.
C'était ceux d'après.
C'est ça, il y avait des sous-ensembles régionaux. Mm-hmm. Il y avait eu par exemple un forum à Nairobi.
Oui.
Et alors on avait un contributeur tanzanien qui était un ingénieur agronome là-bas en Tanzanie, qui nous avait raconté un peu tous les méfaits du néolibéralisme en Tanzanie dans son article de la classe alternative. Et du coup, il nous avait branché sur le forum de Nairobi, et je ne sais plus si c'est lui ou si c'est un autre contributeur de la classe qui était allé. Mais ce qui s'était passé, c'est que, comme là-bas, les gens n'avaient pas d'argent, quoi. Mmh. Donc on avait photocopié, on diffusait. Oui. Alors, j'ai jamais su si c'était la version complète qui avait été diffusée ou pas. Mais comme ça circulait.
C'est vrai.
Voilà. Et alors, après, j'avais essayé de le faire traduire en anglais.
Ouais.
Parce qu'on avait, des contributeurs, on avait pas mal de contributeurs anglo-saxons qui pouvaient aussi le diffuser.
Ouais.
Comme j'étais parti en Transnistrie en 2007 avec un Américain qui habitait à Paris, donc il avait accepté de me le traduire. Il m'avait fait un peu payer, mais enfin, j'avais financé personnellement, mais on m'avait pas pris trop cher. Donc du coup, il l'avait traduit. J'avais essayé de le proposer à deux éditeurs à Londres,
ouais.
Donc Plutôt Presse, qui était assez connu à l'époque.
Oui,
tu connais, ouais. Mmh. Ouais. Mais ça ne les a pas trop emballés parce que ça leur semblait trop français.
Et oui.
Il y a des clivages comme ça, l'uniforme de la résistance.
Ces deux impérialismes de formes différentes.
Oui, voilà. Qui se reflètent même dans les structures de la résistance.
Oui, mais voilà. Je vous avais
ouais. Et par contre, j'avais rencontré un Indien, un businessman indien qui m'avait dit ça peut intéresser en Inde. Mais seulement certains chapitres. C'est-à-dire que le chapitre 1, le chapitre Chine, ça peut intéresser. Alors j'avais dit, bon, le couper en petits morceaux comme ça. Puis il voulait en faire plusieurs tomes, comme ça que c'était. Bon, j'ai dit ça risquait de dénaturer un peu.
Oui,
comme
oui.
Donc en fait, ce que j'ai fait simplement, mais ça je l'indique à nos auditeurs parce que à la limite, ils le trouveront plus facilement en anglais. Le bouquin est édité en anglais chez l'éditeur en ligne lulu.com.
lulu.com.
Voilà,
bon, ça va. Donc, il est trouvable. Il est très joliment, il est cartonné, il a très bel ouvrage.
Voilà, et tu vois, on a pu y mettre toutes les cartes et tout, donc tout est transposé, tout est traduit. Voilà.
Bon, et diffusion alors, la diffusion classique, libraire et tout, ça s'est bien passé?
Oui, 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 ça a été diffusé. Alors le temps des cerises n'est pas sur dans les rayonnages, hein. il fallait commander quoi.
Il faut
quoi, commander, mais ça s'est bien vendu. Moi j'ai jamais les chiffres, hein. Je ne peux pas demander les chiffres, mais l'éditeur m'avait dit que ça se vendait bien, je crois. Alors au début on avait été très ambitieux, on s'était dit si ça fonctionne vraiment bien, on pourra après adosser une structure d'information alternative à ça.
Mm-hmm.
Bon, tout ce que j'ai réussi à faire, il n'y avait quand même pas une surface éditoriale de l'éditeur pour en vendre des dizaines de milliers quand même, quoi. Donc je pense qu'on a dû en vendre quelques milliers. Du coup, mais j'ai quand même pu faire un blog sur Overblog. Qui est actualisé en reprenant le plan des régions qu'on avait dans le livre, qui est actualisé au fur et à mesure. Je l'ai tenu jusqu'en 2013.
D'accord. Voilà.
Mais il existe encore, d'ailleurs on peut se poser la question de l'utilité peut-être de le relancer, je ne sais pas. Il y avait 500 abonnés.
Ah oui.
Quand même. Vu qu'on faisait quand même de l'information assez pointue, c'est déjà pas mal, quoi. 500 abonnés. Voilà, je crois qu'on avait essayé de faire une chaîne YouTube aussi, mais il y a quelques vidéos. J'avais donné une interview, c'était marrant, j'avais donné une interview sur Radio France Internationale.
Ah, pourquoi pas?
Parce qu'à l'époque, le rédacteur en chef de Radio France Internationale était Richard Labévière. Je sais pas si tu as...
Ah oui, je situe tout à fait le personnage. Ah oui.
Et alors, de façon très... Il était déjà un peu en bisbille avec la direction à l'époque.
Oui.
Pas surprenant. Parce qu'il avait des contacts au Liban et en Syrie.
Ouais.
Il avait fait une interview de Bachar el-Assad qui lui avait été vertement reproché. Et donc, comme il était, je crois, sur ces dernières semaines, il m'avait donné la parole, il m'avait dit « Viens parler de la place alternative
».
Voilà. Mais sinon, on n'a pas, pas eu une énorme couverture médiatique. Puisqu'en plus, on avait raté le coche avec le monde diplôme, qui était quand même dommage.
Donc, il n'y avait même pas eu une présentation, rien du tout.
Non, rien du monde plus haut. C'est toujours l'esprit un peu de chapelle hein, dans les milieux résistants.
Ouais, c'est vrai.
Par exemple, voilà, on peut tout révéler, hein, mais il y a prescription maintenant, ça peut
être bien sûr,
ça fait 25 ans. Mais dans le monde diplomatique, la Yougoslavie était sous la coupe d'une prof de Dauphine qui s'appelait Catherine Samary.
Ah, ah oui, bien sûr.
Voilà. Hein, belle-sœur de Krivine.
De Krivine, oui.
Et Diana Johnston, qui avait au départ contribué au monde diplomatique dans les années 90, avait été un peu évincée par Catherine Samary. Mmh. Et donc, dès lors que Diana Johnston était contributrice à la classe alternative, il y avait de toute façon peu de chance.
Voilà.
Même si on avait Nils Anderson. Voilà. Mm-hmm. Pourtant, j'avais essayé d'équilibrer. Je m'étais dit, peut-être Nils Anderson de là et qu'il dit, comme Diana Johnston.
Ça n'avait pas marché.
Ça n'avait pas marché. Et ça fonctionne encore comme ça maintenant.
Je le crains. Oui, je le crains.
Voilà. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un journaliste belge qui s'appelle Pierre Pichinin qui a sorti un bouquin sur l'Ukraine parce qu'il était dans le Donbass en 2014.
Mm-hmm.
Et j'ai contribué à ce bouquin, d'ailleurs j'ai écrit quelques chapitres du bouquin pour la contextualisation géopolitique. Et on s'est posé la question de comment en faire parler dans le monde diplo. Mmh. J'ai pu en faire parler par un journaliste, un contributeur qui lui-même était dans le Donbass en 2014, mais qui n'est pas, le responsable de la section Ukraine, et qui m'a dit que la section Ukraine reste quand même très protégée par son responsable et que... lui-même est cantonné à la partie Colombie et ne peut pas vraiment, sur tout ce qui est ex-URSS, il ne peut pas faire passer certains messages. Il y aurait des messages d'ailleurs plus ouvertement anti-impérialistes que ce que fait passer le monde diplomatique, mais il ne peut pas faire passer de. Alors que lui-même, ce journaliste qui est d'origine colombienne, a vécu en Biélorussie, il y a des choses très intéressantes à dire sur la Biélorussie.
Et oui.
Mais voilà, le monde diplomatique reste une espèce d'ensemble de féodalités comme ça. Et il faut négocier avec les uns et les autres pour pouvoir faire passer des papiers, c'est pas facile du tout. Voilà.
Oui, que ce soit Serge Halimi ou la suite, c'est pareil.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, avec quand même. C'est vrai qu'on avait une approche très anti-impérialiste, très sur la réalité des rapports de force, sur. On n'était pas seulement dans les bons sentiments, quoi. On cherchait vraiment à faire de l'analyse, de savoir qui a agressé qui, quel est le plan global recherché, etc. On avait vu pendant la guerre de Yougoslavie, il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas vraiment s'opposer au bombardement de l'OTAN, en disant « Oui, mais puisque Milosevic n'est pas un grand démocrate, etc., nous, on est dans le nini. »
Oui, là, le fameux épisode du nini.
Ni Clinton, ni Milosevic.
Ni Bush, ni Sadat.
Voilà, ça, on l'a vu tout le temps.
Du coup, on ne faisait plus rien.
On n'a rien à rien, et on ne fait plus rien. On cherche à montrer sa pureté, à montrer que nous, on a une supériorité morale.
Moi, je suis pas un peu, et tout ça.
Et ça, c'était pas du tout une sensibilité. C'est vraiment de l'analyse concreto, de savoir qui menace qui est le plus dangereux, etc.
Oui, exactement.
Et c'était un discours qui passait mal auprès du monde diplôme.
C'est tellement plus facile, après, d'aller dans les dîners en ville, de dire moi j'ai été propre.
Oui, c'est ça.
Oui, mais bien sûr. Bien sûr.
Oui. Et c'est pareil au niveau des appareils politiques. Le PCF fait très attention à ce que, par la guerre de Yougoslavie, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de manifestation, en gros. Et puis, pendant la guerre d'Irak, c'était faire la chasse au portrait de Saddam Hussein. Il ne fallait pas qu'il y ait un portrait de Saddam Hussein dans les manifs, il ne fallait pas qu'il y ait des gens qui aient des voiles, il ne fallait pas, etc. On pouvait juste sortir des drapeaux arc-en-ciel, des trucs.
C'est des très bons.
C'est pareil, il fallait montrer sa pureté morale tout le temps. Et PC, après, du coup, c'était bien la remarque du PC irakien, avait soutenu le PC irakien, qui était une formation en exil, qui était en fait très très liée aux renseignements occidentaux. D'ailleurs, ils avaient siégé au gouvernement irakien sous occupation américaine, quand même.
Ah oui.
Pour te dire à quel point c'était un parti révolutionnaire.
Et oui, il y a ça aussi, tout d'un coup, apparaître des PC dans des pays où il n'y en avait pas, et tout d'un coup. Alors le titre suffit quelquefois.
Oui. Et il y avait quand même une forte tendance dans la gauche, comme ça, à faire de la morale un peu abstraite, à ne pas vouloir trop se mouiller. Oui. Et même pendant la guerre d'Irak, on parle du monde diplôme, mais je relisais la guerre un peu les discussions qu'on avait par email à ce sujet. Il y avait, je crois que c'était en février 2003, ils avaient sorti un numéro qui s'appelait L'Empire contre l'Irak, dans lequel tu avais tout le vocabulaire quand même où ils mettaient un point d'honneur pour montrer qu'ils étaient contre la folie de Saddam Hussein. La folie de Saddam Hussein. Alors ce vocabulaire, la folie de Milosevic, la folie tout de Saddam Hussein, maintenant avec la folie de Poutine, on le sort en permanence. Pour surtout ne rien analyser, ne rien comprendre des intérêts de chacun des pays, etc. Il faut toujours penser qu'il y a un psychopathe qui dirige un pays qu'on doit attaquer, lequel il faut se protéger. Donc tu vois, ça, moi je suis content qu'on puisse en parler sur Radio Galère aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de jeunes gens qui découvrent un peu depuis quelques années cette espèce de lavage de cerveau, qui a l'impression que ce matraquage, cette espèce de cette façon de répéter des mots d'ordre comme ça pour nous hypnotiser avec des mots d'ordre, ils ont l'impression que c'est récent, mais c'est pas si récent que
Ici ajoute à ça le fait que les quotidiens de référence, comme on dit, sont tombés totalement dans ce panneau.
Tout à fait.
Pour qui a des vagues. J'ai encore des souvenirs d'étudiants de la guerre d'Algérie où, quand Beuve-Méry écrivait quelque chose, ça pesait quelque chose dans le débat politique. Ça a totalement disparu.
Non, mais le Monde est devenu une officine de propagande comme les autres, une officine de com qui utilise un vocabulaire même de propagande. Plus avec cette analyse un peu fine diplomatique qu'il y a autrefois, c'est sûr. J'avais commencé à m'abonner au Monde quand j'avais 14 ans. À l'époque, il y avait une pré-analyse des intérêts économiques, politiques des pays. On ne commençait pas par nous expliquer que Machin est un méchant dictateur.
Non, pas du tout. Ça, c'est totalement perdu.
Et ça, c'est vrai qu'il y avait déjà eu un tournant à l'époque de Condamine, à l'époque de la guerre de
Oui.
C'est déjà une catastrophe. Puis après, Louis Plenel. Intel, etc.
Oui, nous sommes tous américains.
Oui, c'est ça, oui.
C'est ça, Colombani.
Oui. Non, mais voilà, ça, le bombardement médiatique du 11 septembre, c'est effrayant.
Ah, c'est, oui, parce que ça n'avait jamais atteint cette ampleur mondiale un petit peu de temps. C'est un cas d'école.
Ouais. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de...
Si, ça avait commencé avec le 11 septembre, parce que là, il y a eu le bombardement médiatique aussi, puis ça, sur la suite, c'était l'enchaînement normal, parce que ça est sur l'Irak.
Oui, oui, c'est ça, oui. Non, mais le 11 septembre, ça a été vraiment un matraquage hallucinant. Quoi. Je pense que les jeunes gens ne se rendent pas compte. Quoi. Moi, je suis originaire d'un village dans le sud-ouest. Les vieilles dames avaient peur que Ben Laden pose des bombes dans leur supermarché.
Quoi. Oui, oui, c'était ça. Oui, tout
à fait. À force de recevoir ça tous les jours sur TF1, c'est incroyable. Quoi. Et du coup, on légitimait une répression tous azimuts. Quoi. On pouvait vraiment se faire fouiller à n'importe quel moment, il n'y avait aucun respect de... voilà, je pense que ça avait été le moteur de notre résistance, effectivement, à la fois cet unanimisme qu'il y a eu sur Yougoslavie, puis sur le 11 septembre, on s'y sait, il faut absolument qu'on ne peut pas être complice de ça, quoi. C'est pas possible. Mais en même temps, c'est vrai que c'était plus facile parce que il y avait plus de confiance dans les échanges sur Internet, parce qu'il y avait moins de flicage. Il y avait de la répression judiciaire déjà, mais dans une moindre mesure qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce système de délation permanente avec des gens payés sur fonds publics pour faire de la délation, Conspiracy Watch et compagnie.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça, une vraie chasse.
Oui, c'est ça. Alors, il y avait déjà... c'est marrant parce que tous les schémas étaient déjà présents. C'est-à-dire les accusations de complotisme, ça se disait pas tout à fait comme ça, mais c'était déjà un peu ça. Les accusations de collusion entre extrême-gauche et extrême-droite, ça existait. Parce que
ah oui, les fameux rouges-bruns.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Ouais. Il y avait un écrivain qui s'appelait Denex, qui était très fort dans cette dénonciation-là. Alors ça existait, le rouge-pénisme, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient assumé que il fallait faire une union entre extrême droite et extrême gauche, mais c'était assez minoritaire.
Oui.
Mais beaucoup de gens déjà pouvaient se faire accuser de rouge-pénisme sans être dans la tendance bourgeoise, simplement parce qu'ils n'avaient pas voulu rentrer dans cette logique justement de dire le fou Milosevic, le fou Saddam Hussein, etc. On dit, ah mais c'est parce que vous êtes complice des dictateurs,
oui,
ça,
ouais.
Donc vous êtes extrême droite, etc. C'était tout à l'heure,
ouais, oui,
ça, l'accusation. Oui, et ce qui du coup nous a aussi, comme je te disais, de Thierry Messant, qui à l'époque n'était pas encore catégorisé via l'extrême droite, mais il y avait eu d'autres personnes aussi dont il avait fallu qu'on rejette les propositions d'articles parce qu'elles commençaient à être à fréquenter. Il y avait ce qu'on appelait, Terra Johnson appelait ça la guilt by association. C'est-à-dire qu'il suffisait quand vous avez vu quelque part à une tribune avec quelqu'un pour qu'il y ait déjà des délations, vous regardez, attention, il est associé là, etc.
Oui.
Donc des gens qui avaient été peut-être un peu trop vus avec machin ou truc, n'allaient pas trop le recruter dans la place alternative. Mais ça, c'était déjà un schéma qui était en place. Le schéma des persécutions judiciaires, c'était encore très minoritaire, beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, mais ça existait déjà. Il y avait eu en 98 ou 99 une revue anglaise ou américaine qui s'appelait Living Marxism.
Oui,
tu te souviens de ça?
Oui, tout à fait.
Qui a été coulé par une action judiciaire. Parce qu'ils avaient dit que tel camp en Bosnie n'était pas un camp d'extermination. Parce qu'il y avait des accusations, comme quoi les Serbes faisaient des camps d'extermination.
Tout à fait.
C'est ça. Ce serait marrant d'ailleurs de raconter, enfin, ce serait intéressant de raconter comment l'accusation avait été montée. Parce que c'était une officine aux États-Unis qui avait lancé ça. En tout cas, Living Marxism avait dit non, tel camp, c'est pas possible que ce soit un camp d'extermination. Et il y avait une association de victimes sorti d'où, financé par qui, on ne sait pas. C'est toute une action judiciaire là-dessus, en disant non, mais les photos qu'ils avaient prises n'étaient pas de ce camp-là, etc. Et puis vous nous offensez en tant que victime, etc. Et ils ont été coulés, financièrement.
Je me souviens aussi de l'aventure qui est arrivée au journaliste M. Berlino.
Ah oui,
oui. Qui a dit ce qu'il avait vu et que donc il a perdu sa place à France Inter.
Oui, c'est ça, il y avait des journalistes qui perdaient leur place, bien sûr. Mais maintenant c'est dans des proportions bien pires.
Oui, bien entendu. Mais on avait déjà les prémices, que c'était moins systématique, et moins organisé, parce que non, il n'y avait pas de chasse aux conspirateurs avec des financements et des salariés, des salariés qui font ce boulot, c'est un boulot comme un autre.
Oui, absolument, c'est le délateur. Ça pose la question, d'ailleurs, des moyens d'action maintenant, comment faire pour...
Ah ben, oui, c'est plus difficile, oui. Comment faire avancer le changement social dans la nécessité patente.
Oui, c'est ça.
C'est ça, mais les gens à qui on pose la question, mais on fait quoi? On fait quoi? On fait comment?
Ouais.
C'est plus ça. Parce que s'il n'y avait pas ce frein-là, je pense que Macron serait parti depuis longtemps.
Oui. Hein, oui.
Et ce frein-là, il existe, il est vécu parce qu'il est réel. Ouais. On se fait retourner. C'est pas un individu, c'est des structures entières. On parlait des positions de la CGT, par exemple, sur la crise actuelle vis-à-vis de Trump et tout. C'est très, très inquiétant. Position de l'Union sacrée, d'où ça sort?
Alors, c'est vrai que l'Union européenne aussi a fait beaucoup de mal pour...
Oui.
Je suis pas vu là, mais... Alors tu me disais au départ, effectivement, les choses ont changé aussi au niveau international maintenant, parce qu'il y a un rééquilibrage, quoi.
Mmh, exactement.
C'est vrai qu'on va vers un monde plus multipolaire. Encore que, il faut, à mon avis, moi je reste assez prudent là-dessus, parce que il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Notamment le paramètre de la technologie. Parce que beaucoup de choses peuvent se jouer sur les nouvelles technologies sur lesquelles les Américains sont encore très en pointe, quoi. Les biotechnologies, on voit là, avec Elon Musk, etc. Les Chinois ne sont pas en reste non plus, heureusement. Mais qui va remporter cette bataille, ça on ne sait pas encore. Est-ce que ça va rester équilibré?
Il est clair qu'elle est en cours et que les deux protagonistes sont conscients de la bataille.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est clair.
C'est ça. Tout ce qui est biotechnologie, tout ce qui est informatique, tout ce qui est intelligence artificielle, avec d'énormes enjeux. Il y a la question qui reste aussi, il me semble, de l'interdépendance de toutes ces puissances entre elles, quoi. Parce que elles s'affrontent sur le plan géopolitique, mais elles sont aussi interdépendantes.
Très. beaucoup plus que... Ouais. Enfin, ça ne peut pas se régler avec des coups de droit de douane, quoi. C'est pas du tout à l'échelle.
Bien sûr. Mais c'est assez frappant. Moi, j'ai été frappé de voir que en 2021, juste avant la guerre d'Ukraine, la Russie avait collaboré avec le Forum économique mondial sur des scénarios de cyberattaque. Donc ça montrait qu'il y avait quand même encore, pourtant il y avait déjà des tensions entre l'Ouest et la Russie. Et il y avait quand même une forte collaboration sur des sujets très sensibles entre Poutine et le Forum économique mondial. D'ailleurs, Klaus Schwab a dit que Poutine était un de ses young leaders. Et on a vu récemment que Ben, dès que Trump a commencé à parler d'assouplir sa relation avec la Russie, il y avait commencé à y avoir des voix en Russie qui étaient très favorables à ça. Quoi. Mm. Voilà. Et donc on sait pas trop comment va se recomposer cette multipolarité. On ne sait pas trop si l'avantage qu'ont les Occidentaux va évoluer à être réduit par les concurrents asiatiques ou pas. On est vraiment dans une période d'incertitude là-dessus, je trouve. Nous, en tout cas, je pense qu'on a le devoir en tant que citoyen de ne pas rentrer dans ces logiques impériales, quoi. Que ce soit. Alors, on était dans la configuration où on était aux ordres des États-Unis. Maintenant, on voit apparaître une espèce d'impérialisme européen autonome des États-Unis, voire anti-américain.
Oui, qui est très trompeur, à mon sens. Je pense qu'il y a un partage des tâches qui est au contraire bien conçu, mais.
C'est possible, ouais, c'est possible.
C'est un peu l'impression que j'ai finalement en avant ça.
Oui, parce que de toute façon, il y a l'idée de répartir le fardeau.
Ne serait-ce que la charge financière. C'est pour ça, l'avantage de Trump, c'est que quand il parle d'argent, on sent que c'est vécu en profondeur. Et donc, il dit, voilà, je ne veux pas payer, il faut qu'il paye, etc.
Ouais,
ça, il est tel qu'en lui-même. Là.
Ouais.
C'est son discours et c'est vécu, puisqu'il arrive en disant 350 milliards, je veux en avoir pour mon argent.
Ouais.
Et ça, c'est dans l'amitié entre les peuples, ça compte pas, ça marche pas.
Oui, c'est, ça.
c'est très intéressant pour ça.
Ouais. Non, mais Trump a surfé sur les besoins un peu isolationnistes de l'électorat de droite américain, quoi, qui, comme je disais, était déjà un peu présent dans l'électorat de Bush
en
septembre.
Oui.
Et du coup, c'est très ambigu, hein, c'est très très ambigu ce qu'il veut faire. Quoi. On n'arrive pas à très bien comprendre parce que c'est un homme de spectacle, donc il joue un peu. Il prêche le faux pour avoir le vrai, etc. Et c'est un peu, ça fait partie de ces techniques de négociation un peu compliquées à décrypter. C'est assez intéressant de voir qu'il y a eu des franges du Parti démocrate qui se sont ralliées à lui sur un mot d'ordre d'établissement de la paix et de suppression des bases de l'OTAN à l'étranger, hein, comme tous ces gabards de rejoindre là-dessus. On est dans une période d'opacité en ce moment, avec Trump qui semble jouer la carte de l'isolationnisme, mais en même temps qui défend l'idée d'une taxe carbone mondiale, et Elon Musk aussi d'ailleurs. Donc est-ce qu'il est dans un plan mondialiste supranational ou est-ce qu'il est dans un plan isolationniste? On a l'impression qu'il joue un peu sur les deux volets. Voilà, moi j'ai.
Est-ce qu'il joue, est-ce que d'autres jouent
oui,
dans la Maison Blanche? C'est ça un peu la question aussi. Parce que, vu son niveau d'agitation assez frénétique, on se dit, quelles sont les minutes qui restent consacrées à la réflexion?
Non.
Entre les heures d'avion, les heures d'interview, les heures de signature, qu'est-ce qui lui reste?
C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il a aussi dans son équipe des néoconservateurs.
Ah, clairement.
Et aussi des types plus isolationnistes, comme J.D. Vance, quoi, qui est un type qui avait été militaire en Irak, etc., qui ne veut plus de cette politique clintonienne, entre guillemets. Quoi. Mais il y a les deux tendances, je crois, effectivement, à la tête des États-Unis. D'ailleurs, je pense que les élites européennes qui sont sur le logiciel Clinton, Obama, Biden, espèrent, quelque part, que ce logiciel va se réimposer à nouveau.
Tout à fait, oui.
Voilà.
Oui, pour eux, c'est un mauvais moment à passer.
C'est ça.
C'est un mauvais moment à passer, c'est un personnage fantasque. Mais c'est,
ouais.
Derrière, il y a... Alors, c'est pas le deep state, mais il y a les gens sur lesquels on compte et qu'on connaît.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais en attendant, effectivement, on voit toujours à l'œuvre ici en France les mêmes réflexes. Quoi. On avait quand même, on l'a oublié, mais même en 98, on avait eu le thème de la menace CERN. C'est-à-dire que il y avait un infographiste en Serbie qui avait, c'était en 99, qui avait montré la tour Eiffel avec le haut bombardé. Il avait dit Just imagine. Il avait dit ça pour dire essayez d'imaginer ce que nous vivons quand vous nous bombardez. Il y avait des médias français qui avaient dit voyez, les Serbes menacent de bombarder la tour Eiffel.
Ah oui,
c'est quand même incroyable. C'est quand même un pays de 10 millions d'habitants.
Oui, oui.
On avait peur de pays de 10 millions d'habitants. Et donc, voilà. Après, on a eu la menace islamiste. Maintenant, on a la menace Poutine. Et ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça fonctionne ? C'est qu'on a la direction de la CGT qui dit oui, on va participer à l'effort de réarmement contre la menace russe. Même les mouvements dont on attend le plus esprit critique s'alignent.
C'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement, tout leur entourage, c'est pas que des individus qui sont à la tête de ces organisations, c'est tout leur entourage, tout leur état-major. Qui a été baigné, qui a été lavé, comme tu le sais, et qui donc est incapable de produire autre chose. Et comme ils ont, dans ces cas-là, ils ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes pour garder l'identité de la boutique.
Ouais.
C'est très, très, très délicat. Et on voit, moi je suis d'assez près, parce que j'ai des copains encore, les débats dans la syndicat CGT de base ici, c'est souvent très, très dur. Mais c'est souvent très très instable, c'est-à-dire la CGT Docker, par exemple, la CIT, a été mélanchonienne à un niveau pas possible, mais au point d'aller faire des choses pas très propres. Et puis tout d'un coup, maintenant, ils sont redevenus Roussel, ils ont basculé totalement. Et quand on les regarde de près, ça se joue sur deux, trois types qui réfléchissent, sur 2000 adhérents. Et donc ça peut aller dans tous les sens.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de culture, il n'y a plus les écoles du parti.
Ouais.
Parce que, c'est ce que j'ai vu aussi. Dans ma vie militante au port, j'avais des contacts, même s'ils étaient à la CGT, moi je n'y étais pas, et qui avaient fait des écoles de formation du parti. C'était des gens qui étaient sortis de rien, qui n'avaient pas fait d'études, qui avaient bricolé comme garçon de café, enfin, tous les petits boulots pour manger.
Ouais.
Et qui avaient une structure politique en tête parce qu'ils avaient fait les écoles du parti. Ça, il n'y a plus rien de semblable.
Oui, ben oui.
Il n'y a plus rien de semblable.
Ouais.
On voit bien. Et on voyait des gens transformés. Moi, j'en connais quelques-uns, c'était pas du tout le même homme avant et après.
Ouais.
Avant, c'était. Il était quelqu'un de manipulable, qui suivait tout ce qu'il disait, et puis après, c'était quelqu'un qui réfléchissait, qui avait des méthodes d'analyse.
D'où l'importance de l'éducation populaire.
Mais c'est absolument central. C'est absolument central. Et pour ça, moi, le travail que je fais pour la radio, là, je le fais vraiment dans cet esprit-là. Lancer des choses, c'est quelquefois des bouteilles à la mer, mais après il y a un retour. Il y a un correspondant qui va écrire et qui va dire oui, refaites un truc là-dessus, ça nous a plu.
Le problème, c'est que c'est vrai qu'en France, on est très hexagonaux quoi, dans notre façon de penser.
Ah oui.
On connaît très peu ce qui se passe à l'étranger.
Ouais.
Moi, j'avais essayé entre 2009 et 2012, j'avais été au cabinet d'un maire de gauche de la région parisienne. J'étais chargé des relations internationales, donc j'avais voulu m'appuyer un petit peu sur la municipalité pour qu'on crée une association d'éducation populaire, c'était dans la banlieue parisienne. Mais ça n'intéressait pas du tout les élus, les membres des partis politiques, le PC, etc. C'était pas la place de la relation internationale. Et c'est vrai qu'on le retrouve partout. Il y a peu d'intérêt pour ça.
Alors je me suis posé une question, je te la pose, parce que tu me fournis l'occasion. Je me suis demandé si les lois de décentralisation, dans la mesure où elles avaient amené toute une couche la petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, à faire de la politique au niveau quotidien, que ce soit dans les régions, les départements, toutes les structures intercommunales et tout, et qu'au fond, ils sont noyés là-dedans, et donc c'est, on leur parle d'un problème international, c'est trop pour eux.
Oui, oui, ben c'est... Malheureusement, oui, c'est vrai. Moi, je pensais souvent... c'est dans les années 1900, il y avait le socialisme municipal, on pourrait faire de l'anti-intérêtisme municipal, mais non, c'est vrai que ça... Les gens sont enlisés dans les revendications du quotidien, effectivement. Ouais.
Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était qu'à l'époque, j'avais travaillé sur, je sais pas si t'as entendu, le rapport Nora Mink. Simon Nora, on ne sait plus, il y a Alain Mink qui est tel phénomène, avait fait un rapport en disant ces couches de la petite bourgeoisie, pour pas qu'elles basculent dans le camp de populaire, il faut les distraire avec quelque chose.
Ah, ouais. Oui, c'est pas...
D'où l'idée de la décentralisation. Qui est une fausse décentralisation, puisque les préfets ont un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu quasiment maintenant. Mais un pouvoir d'influence, c'est un pouvoir qui ne s'exerce pas de la façon classique du préfet, mais en fait, on fait très attention. Et puis le préfet tape sur la table, mais il ne le dit pas à la radio. Quoi.
Oui, c'est vrai que c'est une des façons avec lesquelles on tient la classe moyenne, effectivement.
Ah, oui.
Pour éviter qu'elle glisse dans ses revendications. Oui, on sait.
Ouais. Quitte à la. Pas lui rendre service d'une façon générale, ni à elle, ni à ses enfants, mais ça c'est l'appauvrissement de l'éducation nationale et tout, de toute façon. Oui. Mais en fait, on les envoie, bon, on a le cas sur Marseille où c'est particulièrement sensible, on envoie une partie des enfants de la classe moyenne dans le privé, du fait qu'on laisse aller le reste.
Alors qu'on est un pays qui a énormément d'atouts en termes justement de résistance intellectuelle, quoi.
Mais oui.
Le fait qu'on a un service public encore très puissant, avec beaucoup de gens qui sont liés à ce service public, c'est grâce à ça qu'on a encore un tissu associatif, c'est grâce à ça qu'on a un journal comme Le Monde Diplomatique.
Ben, exactement.
Donc c'est vraiment des choses dont on ne se rend pas compte, hein, de tous les atouts que ça nous donne pour pouvoir jouer un rôle comme ça de résistance. Et les pays étrangers nous regardent. J'étais en 2023... à Cuba, d'ailleurs j'ai fait un petit bouquin là-dessus, j'étais frappé de voir qu'on a l'image d'un pays révolutionnaire, la France, quoi, parce que c'était au moment où il y avait les manifestations pour les retraites. Quoi.
Et oui.
Ils nous disaient, ah, en France, vous êtes tous dans la rue, c'est formidable. C'est
6 mois de mobilisation massive.
Et c'est vrai que si on mettait un peu de cette énergie qu'on peut avoir...
Ou le référendum de 2005,
absolument.
On aurait été capable de dire non.
Donc on a vraiment des ressorts de résistance, et c'est pour ça que c'est important qu'on ne les néglige pas et qu'on les tourne aussi dans un sens aussi au service de l'analyse des rapports de force internationaux.
Tout à fait. Et puis là, on n'est pas... Enfin, il faut qu'on s'extrait du discours « c'est l'Europe ou rien ».
Oui.
Là, la France a quelque chose à apporter qui est son histoire.
Tout à fait. Ouais. Mais là, je pense qu'on... Alors, peut-être justement que le mouvement de militarisation actuel, l'augmentation des dépenses militaires, vont finir par...
Ça devrait faire réfléchir.
Ça,
on sent un peu. Alors, c'est beaucoup plus fort en Italie, par exemple. Ça démarre en Espagne, aussi, c'est intéressant. Et on est un peu en retard. Mais on a les bases y sont, je veux dire, il faut que ça se mette en place.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on va le voir demain, je pense, ça sera sensible dans les manifestations de demain.
Parce que évidemment, les gens commencent à voir que les augmentations du budget militaire, ça va être au détriment des budgets sociaux.
Oui, et puis c'est même clairement annoncé, donc on voit bien.
Et puis nos jeunes vont être de plus en plus sollicités. Dans cette mobilisation, quoi, dans ces journées de défense, etc. Brainwashing anti-russe, etc. Donc il y aura sûrement, on peut espérer qu'il y aura des réactions, même si pour eux c'est de plus en plus difficile aussi. Ils sont très conditionnés. Je vois malheureusement le système. Moi, j'ai un fils qui est ado. Je vois que le système éducatif ne les encourage pas trop à avoir un adolescent critique. Hein,
ah oui.
Malheureusement. Hein.
Il est au lycée encore.
Ouais,
il est
au lycée. Ouais. Voilà. Donc voilà. Après, ça laisse réfléchir. Hein, qu'est-ce qui peut être fait. Maintenant, le support principal, c'est les vidéos, apparemment. Mmh. Beaucoup de gens qui investissent là-dessus. Ce qui a des inconvénients, parce que il y a des longueurs, les gens passent beaucoup de temps à écouter des propos qui ne sont pas toujours très structurés.
Oui, parce que c'est techniquement assez facile de faire des vidéos.
Oui, c'est ça.
Le temps de préparation peut être faible, oui.
Exactement. Donc les gens ont un peu une écoute passive face à ça, ils disent regarde ça comme à la télé, c'est pas très structurant quoi, en
termes de
tout à fait.
Tout à fait. Voilà. D'où bon, l'attachement que je garde donc, à l'expression radio et puis à l'expression écrite, hein, puisque
ouais.
En général je double ce que j'écris à la radio, pas tout le temps, mais presque sur tous les sujets, dans des papiers. Quoi.
Ouais.
Parce que. Mettre en place. Quelquefois j'écris avant, puis ça sera le sujet d'une émission après. Tu vois.
Ouais, ouais.
J'ai fait une émission récemment qui s'appelle La colonisation de la France, en expliquant que la France en fait est une colonie américaine et que les structures très organisées de très longue date sont faites pour que les élites françaises soient pro-américaines et qu'elles n'ont pratiquement pas le choix.
Oui.
Et en fait, à partir du. Quand je fais un document comme ça écrit, après ça me sert un peu de guide pour les émissions qui viennent, et puis je trouve toujours des événements qui disent ben oui, effectivement, c'est une confirmation d'eux. Donc c'est bon, c'est les rapports entre l'écrit et l'oral que j'entretiens comme ça.
Oui, oui, c'est important, je pense, c'est important de ne pas perdre l'écrit.
Oui,
c'est très important. Alors il y a un aspect, moi, ça me frappait déjà en 2000, et ça me frappe encore aujourd'hui, c'est le morcellement des résistances, le fait que les gens ne se connaissent pas entre eux, quoi. Parce que les gens ont leurs habitudes. Puis alors je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce que comme les algorithmes proposent aux gens, ou avec les vidéos, c'est pareil, les algorithmes proposent aux gens des articles de la mouvance qu'ils ont déjà consulté,
voilà, exactement.
Ils toujours en boucle dans le même cercle.
Tout à fait.
Tu sors pas. Et du coup, ouais, moi je trouve que je suis toujours surpris. Quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ce groupe qui s'appelle Initiative Citoyenneté Défense qui est à Grenoble, mm-hmm. qui est aussi un truc de résistance comme ça, de anti-impérialiste, anti-guerre. Ils ne connaissent pas Comaguerre, je leur en ai parlé,
oui,
ils ne
oui.
connaissent pas Comaguerre et Comaguerre ne les connaît pas.
Non, non, je ne les connais pas. Non, non.
Et je constate souvent ce genre de phénomène à Paris aussi, des cercles de résistance qui sont assez voisins les uns des autres. Ou alors ils se connaissent par une personne, mais ils ne savent pas que c'est rattaché à telle autre personne.
Oui, c'est possible.
Il y a un morcellement en fait, hein, qui est un peu compliqué à remédier, quoi, mais ça aussi c'est, je pense, un sujet de réflexion, comment... Et ça c'est une vieille histoire, parce que déjà quand je militais sur la Yougoslavie, Michel Collomb avait essayé de faire un portail des résistances en 2000, il avait essayé d'organiser ça, puis il avait laissé tomber, mine de rien, parce que c'est pas si facile à faire non plus, quoi, il y a aussi des rivalités, des trucs...
Non, mais là, sa dernière formule, c'est de faire des petites séquences très très courtes, presque quotidiennes.
Michel Collomb fait ça
oui. Ouais. Et en fait, il n'a pas tort, parce qu'il prend un événement de la veille et puis il le resitue dans un ensemble et dit réfléchissez, voilà ce que je vous mets sur la table. Parce que ça, c'est,
ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. C'est que la jeunesse serait présente beaucoup avec des shorts, comme ils appellent ces espèces
oui,
de
oui, oui.
vidéos.
Oui, il y a ça, ça
oui. qui balance sur TikTok et tout.
Eh ben oui.
Il y a une accélération aussi de leur façon de penser qui fait qu'il ne faut pas non plus les mobiliser trop longtemps en termes de concentration.
Non.
Hein,
c'est tellement facile de couper.
Ouais. Ouais.
Ou bien de regarder son téléphone pendant les cours.
Oui, c'est ça.
J'ai ça aussi. Et c'est pas qu'au collège, c'est à la fac aussi. J'ai des copains qui disent à la fac. Ouais, pendant un cours, ils sont en train de faire autre chose.
Ouais. Non, c'est sûr qu'il faut intégrer aussi ce nouveau fonctionnement. Quoi, qui est pas, on est sur plusieurs générations hein, à devoir collaborer.
Et oui, et
c'est pas facile. Hein, chacun a eu ses habitudes, génération du livre, la première génération de l'Internet, la génération des réseaux sociaux maintenant. Il y en a qui se découragent. Hein, justement, je parlais avec Pierre Pichinin, le journaliste qui était dans le Donbass, qui a été harcelé aussi. Lui, il a une propre histoire en Belgique. Mais il est assez désabusé sur les étudiants, quoi, sur leur capacité de concentration et tout.
Oui.
Et du coup, il cible plus la génération des plus 40 ans que des moins 40 ans. Quoi, c'est un peu dommage en même temps, on peut pas.
Et oui, bien sûr. Oui, plus de 40 ans, ça veut dire une position matérielle à peu près assurée,
oui,
des enfants, des choses comme ça, oui, plus stable.
Oui, oui, plus posé pour lire. Mais il faut arriver, je pense, à tenir les mobilisations des nouvelles générations tant que possible. Quoi.
On pourrait conclure là-dessus, mobiliser les jeunes générations. Aussi. Bien que nous ne soyons pas de la même, mais c'est une bonne conclusion. Et puis, je pense que ce premier échange sera poursuivi par d'autres.
Oui,
parce qu'on a des objectifs très très communs d'éducation populaire, d'éviter de céder au lavage de cerveau, qui est très très bien organisé. Merci mille fois, Frédéric.
Merci.
À très bientôt.
Été. Au revoir.
Voilà, vous voyez, c'était donc un échange très très libre avec de la nostalgie de certaines périodes et puis en même temps une approche de la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire nous sommes dans une période où l'impérialisme est encore très très actif et très très dangereux. J'en veux pour preuve ce qui se passe par exemple en Palestine, qui est l'exemple le plus épouvantable de l'impérialisme laissé à lui-même. Je finance, je bombarde, je tue, personne ne m'empêche de le faire. Ça, c'est l'impérialisme dans sa forme la plus brute. Et il faut que nous soyons conscients qu'il est capable de faire la même chose partout s'il en a envie. Là, il est dans des circonstances exceptionnelles de maîtrise d'un appareil administratif, policier, militaire, d'une extrême rigidité, d'une extrême violence, d'une extrême barbarie. J'ose le terme. Et donc, il faut bien que nous sachions que la lutte anti-impérialiste aujourd'hui, c'est aussi prendre la mesure de ce phénomène-là. Même si, on l'a constaté à la fin de cet entretien très très libre entre Frédéric Delorca et moi-même, nous sommes bien conscients des difficultés de la pente à remonter, mais nous sommes absolument tout à fait imperméable, enfin autant qu'on peut l'être, au lavage de cerveau, qui est l'espèce de médication quotidienne que les puissants essayent de livrer sur nous. Nous ne voulons pas que nos cerveaux soient lavés, on se bat pour ça, ici sur cette antenne, Frédéric dans ses livres, et nous continuerons à le faire, avec Radio Galère. Merci Radio Galère, merci Sidi, à bientôt.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur.
des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de...